C'est toujours le direct sur l'antenne de Graphite. Moi, je vous dis bonjour. Alors, Enrique nous a dit au revoir en portugais. Donc, si, comme moi, vous avez passé quelques jours au Portugal pendant ces fêtes de fin d'année, vous avez pu comprendre. Pour tous les autres, il nous disait au revoir. Mais il était tellement enjoué. Je dis, ça fait quoi? Il y a 20 minutes, je suis dans le studio. C'est une pile électrique, en fait, dans le studio. Quand il nous met sa musique, il est là, qui danse, qui bouge. Il a raison, parce qu'en fait, son émission, on peut la suivre aussi sur la vidéo de Facebook, hein, sur le Facebook Live, bien sûr, du site de Graphite, bien évidemment. Donc c'est pour ça. Et en même temps, il est obligé, il gère le son et il gère la vidéo. Moi, je suis à l'ancienne école, vous voyez. Moi, je suis né avec mes feuilles de papier pour mes articles de science. Et puis voilà, et puis je vais rester encore derrière le micro. Derrière aussi le téléphone, si vous souhaitez nous envoyer des messages par SMS 06 95 065 026. Je le dis par de mémoire, parce qu'il n'y a même plus le numéro de téléphone qui est affiché dans le studio. Je crois que c'est 06 95 065 026. J'ai tellement répété depuis des années que je le connais par cœur. N'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous le souhaitez. Bonjour à tous, bienvenue donc sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur la bande FM 94.9 et sur internet, bien sûr, graphite.net, en direct ou en différé, parce que vous avez eu cette géniale idée de récupérer les podcasts pour pouvoir nous écouter où que vous soyez, quand vous le voulez, bien évidemment. C'est la première émission de Biotine en direct, hein. On a démarré la semaine dernière, mais je ne vous cache pas que c'est une émission enregistrée. Donc je réitère aujourd'hui en direct mes meilleurs vœux pour cette année 2023. 2023 verra les 15 ans de Biotine. Ça fait déjà 15 ans que je suis greffé sur ce fauteuil du studio et j'ai commencé, voilà, j'ai commencé à prendre mes formes en fait sur ce fauteuil et je suis très bien accompagné, bien évidemment. Je vous propose pour cette émission de Biotine de faire un petit point sur l'année 2022 au niveau scientifique. Et puis on va parler de 2023, alors ça va être encore une année géniale en 2023. On fera le point également sur ce qu'il s'est passé il y a quelques jours à Las Vegas. Tous les ans à Las Vegas, il y a le salon de l'électronique, mais on voit des choses totalement extraordinaires. Tous les ans on en parle, hein, c'est en janvier, on en parle dans cette émission. Et ce qui a été présenté il y a quelques années dans ce salon de Las Vegas commence à être présent dans notre quotidien. Donc on verra cette année les nouveautés intéressante d'un point de vue technologique et notamment au niveau de l'utilisation des smartphones, avec pas mal de choses totalement innovantes et puis des choses un petit peu plus anecdotiques également. Voilà le programme de cette émission que je vous propose aujourd'hui. Nous sommes donc le 14 janvier. C'est toujours intéressant de faire le point sur l'éphéméride pour voir un petit peu ce qui s'est passé il y a quelques années. Par exemple, le 14 janvier 1914, c'est la mise en service de la première chaîne de montage des usines automobiles Ford. 1914. En 73, c'est la première retransmission en mondiovision, c'est en direct, et ça s'est fait par satellite en 73, et c'était un concert de musique, ça a été suivi en mondiovision par environ 1,5 milliard de téléspectateurs. C'était pas la Coupe du Monde de football. C'était bien évidemment 73, la retransmission du concert d'Elvis Presley. C'était à l'International Center Arena à Honolulu, à Hawaï. Il a fait ce concert le 14 janvier 1973. Et le survol de Mercure par la sonde Messenger, c'était il y a maintenant, en 2008, je ne sais plus compter, il y a 15 ans, et le 14 janvier. Naissance le 14 janvier 1875 d'Albert Schweitzer. Ah, alors ça c'est un nom qui nous dit quelque chose. Il est né à Kaisersberg. C'est un médecin, un pasteur, un théologien protestant, philosophe, musicien également alsacien. L'hôpital qui développe dans la forêt équatoriale au bord de Logoé à partir de 1913 de faire connaître dans le monde entier. En 1952, on lui attribue le prix Nobel de la paix qui lui apporte la consécration et bien sûr une visibilité médiatique considérable. C'est un personnage marquant, Albert Schweitzer, du XXe siècle, un homme universel et il est en même temps une figure emblématique de l'Alsace et on voit parfois en lui un précurseur de l'action humanitaire, un précurseur de l'écologie, de l'antispécisme et du désarmement nucléaire. Il est donc né à 14 janvier 1875, il est mort en 1965. Décès le 14 janvier 1742 de Edmond Halley. Halley, ça nous dit peut-être quelque chose. Si je vous dis que c'était un astronome et un ingénieur britannique, ah, astronome, ça se passe dans l'espace. Effectivement, c'est lui qui a été le premier à déterminer la périodicité d'une comète, c'est-à-dire qu'une comète revient régulièrement. Ça se passe en 1682, nous sommes au XVIIe siècle, et il a fixé le calcul d'une comète en disant, tiens, cette comète, elle reviendra 60 saisons plus tard. Et on a donné le nom, justement, de mon aller à cette comète. La fameuse comète de Halley, je vais y arriver. Il est donc décédé le 14 janvier 1742. Voilà, on va écouter un petit peu de musique, ce qui va me permettre de préparer ensuite l'année 2022, un petit bilan de l'année 2022 d'un point de vue scientifique par Science et Avenir, qui nous propose justement une petite rétrospective assez intéressante. C'est un peu le best-of de l'année 2022. Mais pour l'instant, on va écouter The Beyonders.
Solid diagram as a chief has given me the strong belief that I really am.
The Beyonders, c'était Curriculum sur l'antenne de Graphite. 06 95 065 026. Si vous souhaitez réagir en direct, vous nous envoyez vos SMS 06 95 065 026. J'ai retrouvé l'affiche dans le studio. Nous vous écoutez, Biotine sur l'antenne de Graphite, l'actualité scientifique. Alors là, on va pas parler de l'actualité de cette année, mais l'actualité de 2022. Science et Avenir fait une petite rétrospective des principaux événements scientifiques que l'on a évoqués, notamment dans cette émission en 2022. En janvier, une équipe de l'université d'Harvard aux États-Unis a découvert que le virus d'Epstein-Barr, qui affecte 90% des adultes dans le monde, et c'est un facteur déclencheur majeur de la sclérose en plaques, une maladie du système nerveux central. Leur étude a été menée, c'est ça qui est intéressant, sur 10 millions d'individus pendant 20 ans. Donc c'est quand même quelque chose d'assez sérieux, parce que bien sûr le panel est assez important. Et cette étude montre que les sujets infectés par ce virus ont un risque 32 fois plus élevé d'avoir un jour cette sclérose en plaques, une augmentation du risque qui s'expliquerait par des réactions immunitaires spécifiques à ce virus d'Epstein-Barr, notamment chez des personnes prédisposées génétiquement. Toujours en février, on s'est rendu compte, on a découvert, et c'était semblable à un champ de roses géantes, on a découvert ce récif corallien long de 3 km, découvert dans un état de conservation exceptionnel, c'était au large de Tahiti. Et il y a deux espèces qui composent principalement cet écosystème, qui est situé entre 30 et 70 mètres de profondeur quand même. C'est une surprise pour les scientifiques, dans une région qui a connu plusieurs épisodes de mortalité de coraux ces 10 dernières années. Et effectivement, on en a aussi parlé dans cette émission. Et là, c'est une découverte, c'est une belle découverte, c'est une belle surprise. Ça suggère que les coraux pourraient survivre dans les eaux froides des profondeurs au cours des prochaines décennies de réchauffement planétaire. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est tant mieux. En mars, le navire du célèbre explorateur britannique Ernest Shackleton, ce navire s'appelait l'Endurance, s'est brisé par les glaces. C'était en 1915 au large de l'Antarctique. Il a été retrouvé le 9 mars 2022 à 3 km de profondeur, dans un état de conservation totalement génial et inespéré. L'épave était considérée comme la plus inaccessible au monde et elle reposait environ à 6 km au sud de la position qui avait été enregistrée au moment de sombrer. C'était donc en 1915. Le navire était alors bloqué par les glaces depuis 6 mois. En mai, c'est une collaboration mondiale qui a dévoilé le premier portrait du trou noir géant. C'est une photo qui a fait le tour du monde. C'était en mai dernier. Un trou noir tapis dans notre galaxie. Alors, il est quand même assez loin. Il est à 27 000 années-lumière de nous. 27 000 années-lumière, ça veut dire que ça correspond à une distance. La distance que va effectuer la lumière en 27 000 ans. Donc, on se dit que c'est quand même assez loin, bien évidemment. Et on a réussi à voir la photo de ce trou noir. Une photo qui est assez extraordinaire et qui a été capturée grâce à une collaboration internationale, précisément la mise en réseau de 8 des plus puissants radiotélescopes du monde, dont notamment le radiotélescope Noema qui est situé dans les Alpes françaises. Et ils ont pu former une espèce de télescope virtuel, un télescope virtuel de la taille de la Terre, ce qui a permis donc d'avoir la première preuve visuelle d'un trou noir. Ça a été une découverte majeure de cette année 2022. Quelque part, s'il y avait quelque chose à retenir d'un point de vue scientifique, c'est vraisemblablement cette photo qui a été diffusée en mai dernier. En juillet, on a découvert quelque chose d'assez intéressant. Un animal marin qui s'appelle l'hydotée a été identifié comme essentiel à la pollinisation d'une algue dans l'eau. Donc ça joue le rôle d'une abeille, quelque part, sauf que c'est un petit crustacé qui vit en symbiose avec une algue rouge. Et donc il y a une équipe de la station biologique de Roscoff dans le Finistère qui a découvert ce petit crustacé, et notamment découvert le rôle que ce crustacé avait dans la pollinisation. C'est une découverte qui est assez troublante, parce que on considérait justement que ça se faisait pas, ou en tout cas que ça se faisait d'une façon assez rudimentaire. Et là, ça bouleverse un petit peu l'origine de la pollinisation, parce que la fécondation par les animaux a pu naître dans le milieu marin bien avant que ça se fasse sur Terre avec les plantes. On connaît un petit peu ce qui se passe sur Terre avec les plantes et les abeilles notamment. Et donc là, on se dit, tiens, ça existe sous l'eau. Et donc, quelque part, ça a dû exister avant que cela puisse se mettre en place sur Terre. Et ça a été découvert en juillet. On a enfin la NASA qui, en septembre, nous a fait un film de science-fiction génial, et c'était même plus de la science-fiction, c'est dire. Il y a une sonde qui s'est écrasée sur un astéroïde, une sonde qui a été lancée à 23 000 km/h. L'idée, c'était de pouvoir mener un test de défense planétaire et de dévier un astéroïde de sa trajectoire. C'est un crash qui a eu lieu à 11 millions de kilomètres de la Terre, donc c'était quand même assez loin. Et ça a permis justement de modifier la trajectoire de cet astéroïde qui avait été ciblé. C'est la preuve qu'il serait donc possible de dévier un astéroïde qui pourrait menacer la Terre dans le futur. Les chercheurs surveillent depuis que la nouvelle trajectoire de cet astéroïde reste constante. Donc évidemment, on essaye d'avoir un suivi de ce test, mais test grandeur nature et réussite en septembre dernier par cet astéroïde. Voilà un petit peu les événements marquants de cette année 2022. Alors, en 2023, on a démarré fort avec, je vous le disais tout à l'heure en introduction de cette émission, par le lancement du salon de l'électronique de Las Vegas. Ça fait rêver Las Vegas, mais on a des choses totalement extraordinaires. Alors, il y a trois choses qui ont été présentées, il y a plein de choses qui ont été présentées, mais il y a trois choses qui ont retenu mon attention. La première, ça concerne Samsung, qui avait dévoilé un écran extensible en septembre dernier, et donc qui a, à l'occasion de ce salon de Las Vegas, présenté son Flex Hybrid. C'est un prototype qui ajoute donc à la fonction pliable de l'écran, maintenant on a des écrans pliables, et bien aussi la capacité d'extension. Il est de petite taille, et bien l'appareil s'ouvre d'abord en deux et ça lui donne une diagonale de 10 pouces et demi. Donc on est sur un système de smartphone assez simple. Et en fait, quand on tire sur le côté droit, on va pouvoir agrandir cette diagonale jusqu'à 12,4 pouces. Et donc on dispose quelque part de l'équivalent d'une grosse tablette que l'on peut pratiquement ranger dans une poche de veste, par exemple. C'est ça qui est totalement intéressant quand c'est replié. Donc vous m'avez suivi, on a un smartphone qui est plié au départ, on le déplie, on tire sur le côté, ça devient une tablette. C'est quand même assez fascinant. Ça, du coup, donne des perspectives assez intéressantes, parce qu'on se dit qu'on peut mettre en place des PC portable, ultra portable, parce que du coup, si ça, au départ, à la place d'un petit smartphone replié en deux, il y a la question du clavier qui pose problème, mais en tout cas, on est sur un prototype, donc on voit très bien que c'est des choses qui vont être développées de plus en plus et que l'on va pouvoir avoir dans nos poches dans quelques années. Alors pour l'instant, ce prototype est assez innovant et assez prometteur, et on va donc pouvoir essayer d'avoir une technologie d'extension d'écran qui va être de plus en plus performante, mais ça a été présenté à Las Vegas. Je trouve ça fascinant de partir d'un petit smartphone et d'atterrir après éventuellement un ordinateur portable, bien évidemment. Autre innovation qui a été présentée, ça concerne les télévisions, avec ce modèle de télévision qui a été proposé par la start-up Displace et qui donc présentait à Las Vegas un téléviseur sans fil et qui peut être facilement placé sur n'importe quel mur d'après le constructeur. C'est-à-dire que pour être totalement libéré des câbles, cette télé est alimentée par 4 batteries qui peuvent être éjectées et rechargées individuellement sans éteindre l'appareil. Pour la connectique, eh bien, il y a une station de base qui permet de transmettre l'image sans fil via une connexion Wi-Fi. Il y a un seul boîtier qui suffit pour commander plusieurs écrans. Alors, soit on les installe dans différentes pièces, soit on assemble ces écrans pour faire un écran géant. L'appareil pèse 10 kilos. nous dit-on. Il est conçu pour être portable et déplacé facilement parce que l'installation se fait grâce à deux grosses ventouses électriques qui sont au dos, qui sont capables de se fixer sur n'importe quel mur plat et en appuyant tout simplement sur un bouton, d'après le constructeur. La télé, elle est livrée sans télécommande parce qu'à la place, en fait, elle aura une espèce de caméra qui va permettre de pouvoir vous identifier et vous allez pouvoir commander la télé par des gestes, c'est-à-dire que vous allez lever la main par exemple pour mettre la lecture en pause, vous allez faire un genre de pincement de main quand vous voulez zoomer, si vous installez plusieurs écrans, eh bien, il est également possible de déplacer le contenu d'un écran sur un autre avec un geste. Et puis, vous pouvez également avoir un système qui fait que l'image vous suit et s'affiche sur l'écran le plus proche de vous lorsque vous déplacez dans votre maison. Je trouve ça fascinant, c'est-à-dire qu'à aucun moment vous allez pouvoir louper votre émission favorite, bien évidemment. Alors, petit bémol dans l'article de Futura Science, parce que ils se disent quand même c'est un petit peu trop beau, notamment en termes de kilos, parce que les batteries vont être assez lourdes et Futura a plutôt estimé le tout à 40 kilos. Alors si c'est 40 kilos avec uniquement deux ventouses sur un mur, là on est quand même un petit peu plus perplexe. Donc on est un petit peu voilà sur des suspicions en disant ok, la technologie existe, mais il va falloir maintenant trouver peut-être des systèmes beaucoup plus performants de cette télé un peu autocollante quelque part, mais et donc attendre un petit peu le retour des premiers clients. Ce prototype va être commercialisé et c'est à peu près environ 3 000 $ pour une télé. Il y a une production de 1 200 exemplaires qui est prévu par cette start-up Displace. Donc si vous voulez commander votre télé que vous allez pouvoir ventouser sur un mur et il n'y aura plus de câble et puis vous allez faire coucou à l'écran et comme ça vous allez pouvoir changer de chaîne comme ça, et bien vous dépensez 3 000 $ et vous contactez la société Displace. C'est ce qui a été présenté à Las Vegas. Enfin, dernière chose... Pardon, il pleut sur Compiègne, il fait un temps quand même pas génial, il fait froid, j'ai un peu un chat dans la gorge, j'en suis désolé. Dernière chose présentée à Las Vegas, et là ça n'a aucun rapport, mais c'est tellement utile, enfin il paraît-il, c'est un dispositif de réalisation des analyses d'urine qui pourront être personnalisées à domicile. C'est un petit module connecté qui est à placer à l'intérieur de la cuvette des toilettes, et ça a été présenté en exclusivité donc à Las Vegas. Les résultats sont à consulter sur un smartphone via une application dédiée. Et c'est la société WeThings, qui est une référence en matière de santé connectée, qui propose donc ce véritable laboratoire d'analyse d'urine connectée. Et le système s'appelle YouSkine. C'est unique en son genre et permet notamment aux femmes de suivre leur cycle menstruel et puis à n'importe qui de prendre soin de ça dans santé nutritionnelle, bien évidemment. Alors en fait, ça se présente sous une forme de petit galet blanc de 9 cm de diamètre dans lequel eh bien, il y a des cartouches d'analyse interchangeables qui vont mesurer un petit peu les marqueurs au sein de l'urine. L'appareil est synchronisé avec une application qui permet donc de fournir les résultats de l'analyse. Concrètement, eh bien, l'urine va s'écouler vers un point de collecte où le déclenchement automatique d'une pompe conduit un échantillon jusque dans une petite capsule de test. Il y a une réaction chimique qui va être mise en place. Ça va être, les résultats vont être lus par un capteur optique et à la fin de chaque mesure, eh bien, le liquide restant est bien évidemment purgé et le système nettoyé automatiquement à chaque chasse d'eau, nous dit-on bien évidemment. Alors plus fort encore, ce système peut identifier l'utilisateur grâce à des capteurs radar à faible énergie intégrés dans le lecteur qui vont détecter la vitesse, la distance et la dispersion du jet d'urine. C'est vrai que ça peut être utile, bien évidemment, d'avoir ça. Alors, comme je vous le disais, ça permet de prédire le cycle menstruel et de déterminer la fenêtre d'ovulation en se basant sur la détection hormonale, bien sûr. Et ça permet également d'analyser le niveau de pH, de vitamine C et d'autres molécules également au sein de l'urine. Ça va aider les utilisateurs à surveiller leur rapport métabolique pour optimiser leur hydratation et leur nutrition au quotidien. Et sur le smartphone, eh bien, l'application mobile pourra recommander par exemple des séances d'entraînement et des recettes pour atteindre les objectifs identifiés, bien évidemment. Alors, l'entreprise précise que ces analyses ne remplacent évidemment pas un avis médicale, bien sûr. Ce projet a nécessité quand même 4 ans de recherche et développement. L'appareil est adapté à n'importe quelle toilette occidentale, nous dit-on dans le communiqué de presse. C'est prévu de sortir en Europe au printemps de cette année, donc dans quelques mois on pourra l'avoir. Et avec des cartouches de recharge, il y a un kit de démarrage qui est proposé à 500 €, messieurs, dames, 500 €, votre petit appareil d'analyse d'urine. C'est totalement fascinant. Moi, je ne sais pas. Il faut dire, aller à Las Vegas pour découvrir ça, c'est quand même assez formidable. Il y a également des chercheurs américains qui ont récemment mis en place un système d'analyse des selles pour pouvoir suivre notamment des patients souffrant de troubles intestinaux. Je vous souhaite un bon appétit si vous êtes à table. Et je vous propose d'écouter Busia Bulat sur l'antenne de Graphite. Et on va continuer comme ça à feuilleter l'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. How could I be the last to know when they told me where the fool had gone? Oh, I was not the youngest one up there on the hills they're climbing on. You went up with an open heart when they found you it was all but cold. Those hands they seemed so long.
Be the last to know when they told me where the fool had gone. Oh, I was but the youngest one up there on the hills. They'll find me, oh, another side of gold you rushed. Oh, I could never find them all. Another story of the one you lost, and I wanted to run over.
Gold Rush, c'était Busia Bulat sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Graphite sur la bande FM 94.9 et sur internet, graphite.net, soit en direct, soit en différé, en téléchargeant les podcasts de l'émission. Rediffusion de Biotine tous les mardis matin à 10h. Alors, enfin, une bonne nouvelle sur la thématique du climat. Il faut dire que les nouvelles positives qui concernent le climat sont plutôt rares. Et pourtant, d'ici quelques décennies, on apprend que le trou de la couche d'ozone ne sera plus qu'un lointain souvenir. C'est l'Organisation météorologique mondiale qui a annoncé il y a quelques jours que les mesures prises, notamment l'interdiction de certains produits chimiques, eh bien cela avait nettement amélioré la situation au cours des 40 dernières années. Si les mêmes restrictions restent en place ces prochaines années, eh bien la couche d'ozone va retrouver son état d'avant 1980, c'est-à-dire sans trou, d'ici à peu près une quinzaine d'années pour la majeure partie du monde, d'ici 2045 au-dessus de l'Arctique et d'ici 2066 au-dessus de l'Antarctique. Grâce à ce rétablissement total de la couche d'ozone, eh bien, la planète évite un réchauffement supplémentaire d'ici 2100 d'un demi-degré apparemment, et la vie terrestre échappera également à une exposition dangereuse aux rayons ultraviolets du soleil. Alors, les premières actions en faveur de la protection de la couche d'ozone, ça a été adopté après le protocole de Montréal. C'était en 1989. Alors certains d'entre nous se souviennent évidemment de ce protocole, en tout cas de cet engouement, on va dire, d'un point de vue mondial pour protéger la couche d'ozone. Les mesures prises pour l'ozone sont sans précédent en matière d'action climatique. La réussite obtenue dans l'élimination progressive des substances chimiques destructrices de l'ozone nous montre ce qui peut et doit être fait de toute urgence pour abandonner les combustibles fossiles, réduire les gaz à effet de serre et limiter ainsi la hausse des températures. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale. Il s'appelle Petteri Taalas. Et effectivement, il y a eu quand même quelque part une prise de conscience, des actions mises en place et des actions mises en place sur la durée, c'est-à-dire qu'il y a eu une appropriation de ce danger par une grande partie de la population mondiale, si bien que ces actions ont été mises en place depuis 89. Enfin, on parle quand même d'une bonne trentaine d'années, donc on voit très bien qu'il faut du temps pour essayer d'inverser la tendance. Et là, l'article nous parle de 2066 pour vraiment refermer totalement le trou de la couche d'ozone. Donc on est quand même sur des temps assez longs, mais il y a quand même la preuve que quand on veut, on peut quelque part. Et c'était assez, c'est assez illustratif. Et on se dit que ce qu'on a pu faire pour la couche d'ozone, on peut le faire sur l'utilisation des combustibles fossiles et la réduction des gaz à effet de serre, bien évidemment. Mais quelque part, on comprend bien que ça ne va pas se faire comme ça d'un claquement de doigts et d'une façon instantanée, parce qu'on est quand même sur des temps assez longs, bien évidemment. Autre information, ça date de décembre et on n'avait pas eu le temps de l'évoquer dans cette émission, c'est cette expérience de fusion nucléaire qui a été réalisée aux États-Unis, et c'est une percée historique. Alors, du côté d'ITER, en France, il y a un retard de 5 ans qui est attendu à cause de réparations effectuées sur cette expérience. Et donc, il y a une autre technique de fusion nucléaire qui existe. Et cette autre technique a réalisé donc une avancée majeure. Et ça a été d'abord annoncé par le Financial Times dans un article paru le 11 décembre dernier. Ça a été confirmé par le département de l'énergie américain en décembre. Ce sont des chercheurs du laboratoire national Lawrence Livermore qui sont parvenus à obtenir plus d'énergie que ce qu'ils ont initialement injecté. Alors c'est quand même assez fascinant, parce que là on est sur une production d'énergie, c'est ce que l'on recherche bien évidemment. C'est ce qu'on appelle le seuil d'ignition, et il vient d'être pour la première fois d'être dépassé. Alors il y avait déjà des prémices de record qui avaient pu être, survolé, presque atteint en 2021 notamment, mais en 2022, et notamment dans cette expérience réalisée le 5 décembre 2022 qui a nécessité 8 jours d'analyse des données recueillies pour confirmer les résultats, eh bien c'est une date assez importante pour cette percée historique au niveau de la fusion nucléaire. En fait, la fusion se base sur le confinement inertiel par laser. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'on va essayer de faire fusionner comment dire, deux atomes d'hydrogène, je vais y arriver, excusez-moi, et on va les fusionner pour essayer de créer un atome d'hélium. Ce qu'il faut comprendre dans ce dispositif, c'est qu'en faisant cette réaction, on va produire énormément d'énergie. Et c'est ça qui est important, bien évidemment, c'est ça que l'on veut. Et on utilise des lasers pour cette technique, hein. Il y a plusieurs techniques qui existent, mais celle qui, pour l'instant, a réussi en premier, c'est cette technique en utilisant des faisceaux laser, qui, bien que les atomes vont fusionner. C'est pour ça qu'on parle de fusion nucléaire, bien évidemment. Tout ça se fait à très haute tension, à très haute densité, pendant un bref instant. Donc, effectivement, on n'est pas sur quelque chose qui est assez stable, mais en tout cas, on a réussi. Il y a très peu de laboratoires dans le monde qui utilisent cette technologie. Une technologie qui a été suggérée déjà dès les années 1960. La fusion qui utilise des lasers permet de reproduire très brièvement les conditions que l'on trouve notamment au cœur des étoiles, mais aussi ça pourrait mener à une énergie bien plus propre, bien sûr, que les énergies fossiles, dans un futur quand même assez éloigné. C'est-à-dire qu'on est sur une découverte spontanée, instantanée, à petite échelle. On est encore très, très loin d'une utilisation à grande échelle, bien évidemment. Il n'empêche que on est assez satisfait de ces résultats. On est quand même sur des échéances de plusieurs décennies, parce qu'il y a quand même pas mal de freins technologiques qu'il va falloir lever. Et pour l'instant, on est sur une technologie que l'on va essayer de maîtriser, bien évidemment. Il n'empêche que, je vous parlais tout à l'heure de la photo du trou noir qui était une découverte majeure en 2022. La deuxième découverte majeure, c'est ce qui s'est donc passé aux États-Unis en décembre dernier, avec cette expérimentation de fusion nucléaire qui a réussi. Bien évidemment, ça a fait le tour des médias, ça a quand même pas mal, enfin, on en a pas mal parlé courant décembre, et il était bien sûr important que l'on puisse évoquer ceci dans l'émission Biotine, bien évidemment. Autre chose qu'on évoque de plus en plus ces derniers jours, c'est bien sûr cette intelligence artificielle d'un chatbot, c'est-à-dire que c'est un robot avec lequel vous pouvez discuter. Il s'appelle ChatGPT, peut-être que vous avez déjà échanger avec un robot. Il y a des robots un petit peu automatisés que l'on trouve sur certains sites internet, et on voit très bien que le résultat est loin d'être convaincant. Eh bien, c'est pas du tout le cas avec ChatGPT. C'est une expérience qui est totalement époustouflante, parce que ce chatbot a été développé et il fait beaucoup parler de lui depuis quelques jours, parce qu'il exploite son intelligence artificielle pour apparaître aussi crédible qu'un interlocuteur humain, et c'est assez stupéfiant. Il suffit en fait de lui poser une question et ce robot va répondre de façon claire et assez précise, de façon instantanée. C'est ça qui est intéressant. On peut ainsi jouer avec cette intelligence artificielle, lui demander de rédiger les textes sur les questions les plus incongrues. Et donc, avec ces facultés, eh bien, cette intelligence artificielle peut imaginer le scénario d'une rédaction d'écolier, par exemple, de pouvoir la rédiger. Le chatbot est également capable de créer un communiqué d'entreprise crédible aussi. Ça peut être assez intéressant. Et pour utiliser l'outil, en fait, il faut juste créer un compte gratuitement chez OpenAI et de se connecter. Puis le reste de l'opération est assez enfantin. C'est-à-dire qu'on pose notre question et ce robot va rédiger les lignes au fur et à mesure, comme s'il les écrivait en temps réel. Alors, pour parvenir à ce résultat, et c'est ça qui est intéressant, on a fait ingurgiter des quantités astronomiques de données, de la littérature, télévision, forums publics en ligne, articles de presse, scripts de films. Mais par contre, cette intelligence artificielle ne va pas chercher des informations en dehors de sa base de données. Donc, il a quand même une base de données assez conséquente, mais il n'ira pas chercher ailleurs. Et son objectif consiste à acquérir une compréhension plus profonde du langage. Et c'est ça qui est assez troublant, parce qu'il limite ça quand même assez bien. Mais il y a eu quelques tests qui ont été menés quand même sur des sujets précis, c'est-à-dire qu'il sait parler, mais des fois il sait parler pour dire n'importe quoi. Bon, ce sera pas le premier, hein. Je veux dire, maintenant, si les robots le font, il n'y a pas de raison. Donc vous pouvez, voilà, essayer de vous connecter sur ce robot, discuter avec lui et voir les résultats. Alors, il y a de plus en plus de reportages qui ont été diffusés, notamment cette semaine, j'ai vu ça, parce que, bien sûr, comment on va pouvoir distinguer la rédaction d'un écolier par rapport à la rédaction de cette intelligence artificielle, c'est une vraie question, bien sûr, maintenant. Et du coup, les enseignants vont être confrontés à, eh bien voilà, de fausses dissertations. Et du coup, ça peut fausser, bien évidemment, le résultat et la note, bien sûr. Donc, ça va être un vrai sujet parce que, quelque part, cette technologie nous dépasse totalement. Et on n'a pas eu le temps encore, mais ça, c'est sur plein de sujets d'un point de vue éthique, on n'a pas encore pris le temps de prendre de mettre en place des barrières et là la technologie d'un point de vue technologique c'est formidable bien évidemment, on arrive à faire des choses extraordinaires mais l'utilisation de ce que l'on peut en faire là peut amener à des dérives qu'il va être difficile de maîtriser bien évidemment et voilà c'est encore un exemple parmi tant d'autres pour cette intelligence artificielle c'est d'un point de vue technologique formidable, bluffant, extraordinaire fascinant, mais l'utilisation peut bien sûr être parfois un peu condamnable, on va dire, et là, on va se retrouver confronté à des choses qui vont être difficiles de pouvoir maîtriser parce que on est de plus en plus sur une évolution à grande échelle et là, c'est totalement accessible à n'importe qui. Donc, du coup, on n'est plus du tout sur des technologies assez élitistes, mais là, vraiment sur des technologies à portée de tout le monde. Donc, on verra ça. Cette année 2023 va être aussi fascinante par rapport à ces sujets-là, je pense, bien évidemment. On va écouter The Duchess and the Duke sur l'antenne de Graphite et on se retrouve juste après. What you're after, I know what you need, I know everything that you desire, I can taste your lips on yours when I give you a kiss each night, I know where you go, I know what you do. She holds you tightly and you say the same things to her that you've told me. I see it in your eyes, you don't belong to me when you leave my arms. Baby, baby, please don't give in to her charm. Baby, don't you give up on me, I was here for her. When You Leave My Arms, c'était The Duchess and the Duke sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h, même en 2023. Sur l'antenne de Graphite, vous pouvez réagir si vous le souhaitez par SMS 06 95 065 026. Par SMS 06 95 065 026. Pendant qu'on écoutait The Duchess and the Duke, j'avais une alerte de France Info qui m'annonçait que la Chine a déclaré ce matin, a annoncé qu'il y a eu 60 000 décès dans les hôpitaux en un mois en lien avec la pandémie de Covid-19 depuis la levée des restrictions sanitaires dans le pays. Donc 60 000 morts en Chine en un mois suite au Covid-19. Et en fait, on a de plus en plus d'articles qui vont nous apporter des informations sur ce virus parce qu'on avait dit tellement de choses alors qu'on n'en savait rien à l'époque que c'est ce que je vous ai dit, ce que je vous dis depuis le début de cette pandémie. Donc ça fait maintenant 3 ans. Il faut prendre du temps, en fait, d'un point de vue scientifique. Alors je sais, c'est pénible parce que nous ne sommes pas une société qui aime attendre, c'est une société qui veut de l'information tout de suite, et en fait non, là il a fallu du temps notamment pour l'agence gouvernementale britannique qui gère la sécurité alimentaire et qui a mené cette étude sur la survie du virus sur une sélection d'aliments qui ne sont pas emballés, comme par exemple les fruits et les légumes frais, ou alors sur des emballages difficiles à nettoyer ou des aliments qui sont consommés tels quels. Et ils ont voulu avoir des informations sur la durée de vie justement de ce coronavirus. Une durée de vie qui a été calculée dans différentes conditions de température et d'humidité qui correspondent aux conditions de stockage, soit au supermarché, soit à la maison. Et les résultats, et c'est ça qui est intéressant, montrent que la survie du coronavirus dépend de l'aliment ou de la matière du packaging. C'est-à-dire, concrètement, que ce coronavirus ne reste infectieux que quelques heures à la surface d'un pain au chocolat ou d'un croissant, mais jusqu'à plusieurs jours sur du jambon ou des poivrons. L'agence gouvernementale suppose que le virus aussi infectieux que ce virus pourrait se transmettre non pas lors de la consommation de ces aliments, mais lors d'un contact en fait avec ces derniers. C'est-à-dire qu'on pourrait toucher un aliment contaminé, puis se toucher le visage, et ça pourrait permettre au virus d'infecter les voies respiratoires. Alors, l'agence gouvernementale observait que le coronavirus a tendance à survivre plus longtemps lorsque les températures sont basses et l'humidité moyenne. Le virus survit 3 jours sur le plastique d'une bouteille d'eau stockée à 21 degrés. Mais si cette bouteille elle est stockée à 4 degrés au frais, donc, le virus pourrait survivre 7 jours. La nature de la surface joue aussi un rôle dans la persistance du virus sur les aliments. Par exemple, les experts pensent que le coronavirus ne survit que quelques heures sur des croissants et pains au chocolat à cause de la dorure à base d'œufs qui recouvre les viennoiseries et qui pourrait avoir un effet antiviral, entre guillemets. Au contraire, donc, le coronavirus survit plus longtemps sur les aliments riches en protéines et en graisses comme le jambon. Et donc ces expériences, elles livrent quand même des données intéressantes sur la persistance du coronavirus sur les surfaces, mais elles ont été menées dans des conditions artificielles, nous dit-on, et on n'est pas totalement dans des conditions réelles. Alors je ne sais pas pourquoi on n'a pas voulu faire dans des conditions réelles, mais en tout cas l'article de Futura insiste bien là-dessus. Mais voilà, on est quand même sur des informations qui commencent à arriver, mais c'est normal, hein. Il va falloir du temps, il va falloir du recul, et on est encore très très loin d'arrêter de parler du coronavirus d'un point de vue scientifique, parce qu'on va avoir des études sur le long terme, notamment d'un point de vue médical, d'un point de vue psychique, également sur, par exemple, les répercussions des confinements, par exemple. Mais voilà, on est de plus en plus sur des informations qui nous permettent d'avoir un éclairage nouveau sur ce coronavirus. Si on se souvient, au tout début, on allait faire nos courses et on nous disait qu'il fallait les laisser à l'extérieur un certain temps, je ne sais plus combien, éventuellement au soleil. Enfin voilà, il y avait des choses qui étaient assez anxiogènes parce que on avait des suppositions par rapport à ce qui se passe pour d'autres virus. Donc là, voilà, on commence à avoir bien évidemment des informations un petit peu plus concrètes, bien sûr. Et on suivra dans cette émission toutes les nouvelles découvertes, tous les nouveaux articles scientifiques qui parleront bien sûr du coronavirus. Il est 12h52 sur l'antenne de Graphite. On va terminer en parlant des grands rendez-vous de l'exploration spatiale qui nous attendent en 2023. Alors je vous l'ai dit là depuis un certain temps, la décennie 2020 va être géniale d'un point de vue spatial et 2023 sera bien sûr une étape assez importante. Alors en 2022, bien sûr, eh bien, cette année a été marquée par l'impact de la guerre en Ukraine sur le secteur spatial européen. La première mission du programme Artemis qui amorce le retour des Américains sur la Lune, on en a parlé bien sûr en novembre et décembre dernier, et puis bien sûr SpaceX, cette machine à lancer des satellites avec notamment 60 missions réalisées en 12 mois, un record qui devrait être balayé parce que Elon Musk a annoncé viser une centaine de vols cette année. C'est assez fascinant. Pour l'Europe des lanceurs, eh bien, l'année 2022 se termine aussi mal qu'elle avait débuté, parce que la guerre en Ukraine l'a privée de l'utilisation du Soyouz russe. Et donc le premier vol d'Ariane 6 et sa mise en service n'en finissent plus d'être repoussés de semestre en semestre. Il n'y a que seuls deux Ariane 5 qui restent à lancer. Le petit lanceur européen Vega, il a raté son premier vol commercial. Alors, comment donc se profile 2023 ? Eh bien, 2023 verra la fin de la carrière d'Ariane 5. C'est quand même un lanceur totalement historique, devenu la référence sur les marchés commerciaux des satellites, lancé en orbite de transfert géostationnaire, qui aura marqué toute une génération de passionnés d'espace. Et donc, comme je vous l'ai dit, 2023, eh bien, Ariane 5 réalisera ses deux dernières missions. Et avec ce retrait, en attendant la mise en service d'Ariane 6, eh bien, l'Europe qui, il y a encore quelques années, était le leader de l'accès à l'espace, eh bien, sera désormais totalement dépendante du bon vouloir de SpaceX pour lancer ses satellites. Et c'est fort dommage qu'il n'y ait plus ce leadership de l'Europe. Ariane 6, le premier vol était initialement prévu en juillet 2020. Eh bien, on annonce pour l'instant le dernier trimestre 2023 pour son premier vol. Ça pourrait être décalé début 2024. On n'arrête pas de décaler Ariane 6. Pour l'heure, il y a des essais qui vont se dérouler tout au long de l'année, qui vont consister à s'assurer du bon fonctionnement avant de pouvoir faire la vraie réalisation du premier vol, bien sûr. Ariane 6, ce n'est pas le seul nouveau lanceur qui est attendu. Il y a le premier vol d'essai du Starship qui est sans cesse repoussé pour de bonnes raisons, qui devrait également avoir lieu cette année. Il est prévu pour durer à peu près une heure et demie. Starship mettra en orbite, sera mis en orbite par un lanceur et s'envolera à destination de l'archipel d'Hawaï avec un passage dans l'espace, mais sans réaliser une orbite complète de la Terre, nous dit-on. Et si tout se passe comme prévu, eh bien, les tâches principales du lanceur retournera se poser sur la terre ferme, ce qui ne sera pas le cas du Starship, hein, qui lui devrait s'abîmer en pleine mer au large des côtes d'Hawaï après un amérissage qui sera contrôlé, nous dit-on bien sûr. Autre lanceur très attendu, c'est le Vulcan Dula. Ce dernier n'est pas destiné au marché ouvert à la concurrence. Il aura pour seul client le gouvernement des États-Unis et le Falcon sera son principal concurrent. Alors pour son premier vol, il va viser la Lune avec le lancement de l'atterrisseur lunaire Peregrine. Cet atterrisseur qui va transporter plusieurs charges utiles sera le tout premier engin spatial de nature privée à atterrir sur la Lune, donc à allunir bien sûr. Et 2023, dans le domaine des vols habités, ça va être aussi assez intéressant. Il y a Boeing qui va réaliser au printemps son premier vol à destination de la Station Spatiale Internationale avec à son bord deux astronautes. En Inde, il y a un prototype de véhicule habité qui a été développé par l'agence spatiale indienne qui devrait réaliser son vol d'essai à la fin de cette année 2023. Et puis on a vu, et on en a parlé dans cette émission, on a terminé l'année 2022 avec la sélection d'une nouvelle classe d'astronautes européens. Eh bien, en février, l'Agence spatiale européenne va décider si elle se dote d'une capacité autonome d'accès à l'espace pour ses astronautes. Ça va être une information assez décisive pour la suite, bien évidemment. Et enfin, on terminera avec la Chine qui a terminé la construction de sa station spatiale et elle devrait lancer cette année son Hubble, c'est-à-dire un télescope doté d'un miroir de 2 mètres de diamètre. Alors, c'est un peu plus petit que le Hubble original, hein, le télescope spatial Hubble. Par contre, son champ de vision sera bien plus grand et c'est la Chine qui va pouvoir développer ça. C'est une année assez intéressante qu'on suivra, bien sûr, d'un point de vue spatial et au niveau de toutes les autres actualités, bien sûr. Il est 12h57 sur l'antenne de Graphite. C'est la fin de cette émission. Je vous retrouve samedi prochain à 12h pour pouvoir continuer à développer l'actualité scientifique. On parlera d'Avatar, ce film qui, je crois, a dépassé les 10 millions de spectateurs en France en peu de temps. On va parler d'Avatar pour voir un petit peu le point de vue scientifique du message d'Avatar, voir ce que l'on peut prendre en considération, peut-être un petit peu moins. On parlera de ça la semaine prochaine, bien sûr. Je vous souhaite une bonne journée. Vous continuez, bien sûr, à écouter Graphite et l'ensemble des émissions sur le 94.9 pour ceux qui nous suivent sur la bande FM, bien sûr, et graphite.net pour ceux qui nous suivent sur Internet. Rediffusion de cette émission mardi prochain à 10h. Je vous retrouve samedi prochain. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. À bientôt. Au revoir.